à tous et bienvenue dans le mix des cultures, le Blabla Mix. Il est 17h, c'est l'heure de votre quotidienne favorite, je sais pas, hein, il y a aussi le pire reste à venir, donc bon. Mais voilà.
Moi je préfère le Blabla Mix.
Ah cool, mais est-ce que c'est parce que t'es dedans ou parce que on est...
Non, parce que toi t'es dedans.
Ah, oh, trop gentil. Donc aujourd'hui c'est Jérémy à la technique, comme vous avez pu l'entendre. Comment vas-tu?
Bah ça va bien, c'est toujours un honneur de servir à vos côtés, chère Marie.
Waouh, je suis flattée. Et à côté, nous avons aussi Gabriel, notre stagiaire qui est toujours là, qui n'a pas fui en courant hier soir.
Non, ça va, ça va.
Comment vas-tu?
Bah écoute, très bien, et toi?
Un peu plus détendu qu'hier.
Un peu plus, ouais.
Cool, et bah moi ça va toujours, écoute, hein, que veux-tu. Donc aujourd'hui, tu nous as fait un petit agenda, je crois.
Oui, un agenda rapide sur le repas à Athènes organisé par Solidarité Plateau.
Eh bah super, on s'écoutera ça tout à l'heure. Avant d'enchaîner avec les cris du macadam, voilà la fameuse chronique hebdomadaire en collaboration avec le groupe Chien Dent qui donne la parole à des personnes en situation de précarité. Ensuite, on a une petite nouveauté, une petite pépite, elle sort de nulle part. C'est la chronique cinéma, vous ne l'avez pas vu venir, mesdames et messieurs, mais voilà. Donc, on retrouvera Louis et Adrien qui nous parleront un peu du cinéma, des sorties nationales, mais aussi des sorties locales, notamment à l'Omnia. Tout ça avant de retrouver Loïc dans Emploi, Conseil et Formation, parce que c'est officiel, Loïc a repris Emploi, Conseil et Formation, il a viré Momo. Et maintenant, il s'empare de Emploi, Conseil et Formation pour nous faire passer des petits sons, des petits reportages, parce que c'est un reporter en herbe. Tout ça avant d'accueillir Rouen dans la rue. J'ai envie de dire que cette émission va être très chargée, alors Jérémy, je te propose de partir en musique.
Eh bien, partons avec Lady Anne Informer. This one is a special dedication to the boy with the dumb name Rasta. Him just a call up me name, you know. Ribbita, chatita, buyita, loveita, skankita. Eh, tell them certain boy pandi kana informer. Certain boy pandi kana informer. For him a fight against me and me lover. For him a fight against me and me lover. We used to move. But now we move closer. Say him in a clocks, me in a roach killer. Certain boy no love that, and go tell me father. He's not a dreadlocks, nor is not a policeman. He's not a soldier man, nor is not a Babylon. It was an infamer. Hail German, it was an infamer. Hey, yeah. Him stand up on me gate, him pose like a bait. And anything me try, judge and know him underrated. Judge, I know him underrated. In a farmer, not the era.
Murderer.
Him under watching and a peeping.
Murderer.
In a farmer, not the era.
Murderer.
Him under enough chatting.
Murderer.
Him stand up on me gate. Him pose like a bait. And anything me try, judge, I know him underrated. Me no matter where him do, and me no matter where him say. Cut him at the youth, where me love see him wear. Say love is not a brag. Tell your love is not a boss, but give thanks to those who earn up the most. Certain boy pon the corner in farmer. Certain boy pon the corner in farmer. Cause him a fight against me and me lover. Cause him a fight against me and me lover. We used to move close, but now we move closer. Say him in a turling, me in a Diana. Certain boy no love that, and go tell me father. Man, it was an infamer, murderer. Say infamer, not the era.
Murderer.
Him under watching and a peeping.
Murderer.
Infamer, not the era.
Murderer.
Him under enough chatting.
Murderer.
Him stand up on me gate. Him pose like a bait. And anything me try, judge and know him underrated. Me no matter where him do, me no matter where him say. But give thanks to those who earn up the most. When the right time comes, it Informer de Lady Anne.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Il est 17h05, nous sommes aussi sur le 102.4 sur Principe Actif à Évreux et aussi sur le 95.9 dans le sud de l'Eure, composé de Breteuil, Verneuil et de Conches-en-Ouche. Et voilà, continuons l'émission avec l'agenda. Gabriel, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Qu'est-ce qu'on peut faire à Rouen et dans les Hauts en ce moment ?
Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Solidarité Plateau, qui ce jeudi 28 mars organise un repas à thème sur le thème du printemps à la Rotonde, rue Albert Dupuis à Rouen, à midi. Les tarifs sont de 2 à 6 euros par personne et vous pourrez donc vous y rendre sur inscription en appelant le 02 35 59 67 32. Je répète, le 02 35 59 67 32 ou par mail à assoplateau.mediatrice@outlook.fr. Je répète, assoplateau.mediatrice@outlook.fr.
Eh bien écoute, merci, moi j'ai un autre événement, alors non, on ne mangera pas, mais on ira au centre André Malraux, on reste dans les Hauts, et c'est le spectacle, je vous en ai déjà parlé hier d'ailleurs, c'est le spectacle Alain, j'avais un pays autrefois, donc organisé par la compagnie Divine Comédie, voilà, il présente la pièce Alain, j'avais un pays autrefois, en collaboration avec les comédiens de l'association Théâtre d'en Haut et les élèves primo-arrivants du CFA de Val-de-Reuil. Donc la représentation aura lieu à 14h au centre André Malraux et l'entrée est libre mais sur inscription au 02 35 08 88 99. Je répète, 02 35 08 88 99. C'est au centre André Malraux et c'est la pièce Alain, j'avais un pays autrefois dès 14h. Demain, mais j'ai un autre événement, voilà, c'est un festival qui s'appelle Elles font leur cinéma, donc ça se déroule à l'Omnia et c'est en partenariat avec Rouen Donne des ailes, donc une association féminine donc pour mettre en valeur les femmes, faire des actions pareilles pour les mettre en valeur. Donc c'est du 28 au 31 mars. Au programme, on aura des films engagés réalisés par des femmes, mais aussi des expositions. Mais du coup, dans les œuvres engagées, on aura des films, des documentaires, des courts-métrages. Et voilà, donc l'exposition aura aussi lieu à la mairie, il y aura des céramistes, des peintres, des photographes, tout ça, des œuvres faites par des femmes à la mairie de Rouen, j'allais dire pour les femmes, mais aussi pour tout le monde, voilà, ne soyons pas sectaires, ne soyons pas enfermés. Et ce soir, ce n'est pas un film qui est diffusé, mais c'est une conférence de Laura Bernard qui s'appelle « La femme dans l'art ». Donc voilà, on parlera un peu de la place de la femme dans l'art, comment être une femme, être dans l'art, etc. Donc voilà, donc, c'est à la salle des mariages de la mairie de Rouen. Et bien sûr, vu que c'est du 28 au 31 mars, il y a bien sûr d'autres événements. Ça se passe aussi sur la page Facebook « Elles font leur cinéma ». Et je vous propose maintenant d'écouter les cris du macadam.
Je rigole parce que dire qu'il y a deux semaines, on faisait des chroniques foot masculin d'un quart d'heure, on a bien changé.
Non, mais ça change. Tu vois, la semaine dernière, on a fait une conversation sur les femmes, qu'est-ce que c'est, et maintenant, on parle. Non, mais il y a une évolution à force. Et tu vois, je parle d'un festival pour les femmes, alors que maintenant, on a une chronique cinéma. Je pense qu'en fait, tout est programmé. Là, c'est vraiment un certain fil conducteur.
C'est que des hommes, par contre, dans la chronique cinéma.
Ouais, mais la semaine dernière, on a parlé de femmes. Donc, tu vois, genre, on fait les mix des deux semaines et bam, c'est le festival. Du coup, avant d'écouter la chronique cinéma, je vous propose d'écouter Les Cris du Macadam, donc en collaboration avec le groupe Chien Dent, qui donne la parole à des personnes en grande précarité.
Oh, que c'est lourd. Oh que c'est fort, mais personne ne nous entend pas. Les cris du macadam, oh, oh, oh.
Les cris du macadam, saison 2.
Que les hommes arrêtent de battre leurs femmes, abandonner leurs enfants, de violer les femmes dans la rue. La souffrance est trop grande, nous exigeons le respect.
La vie est une grosse cuillère à soupe remplie de merde que l'on engloutit tous les matins.
Je n'ai qu'une seule vie, je ne vais pas la gâcher à torcher le cul à l'État.
Un cri qui court, s'envole et s'écoule, lentement bien sûr, jusqu'au silence. Chute et écoute.
Je marchais jusqu'à vous, je suis là voyez-vous. Combien de pays j'ai traversé, combien de frontières j'ai franchi. Me voilà devant vous, tant pis pour vous.
Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui votre bonne humeur.
Pour mon père, que j'aime, Et pour ma mère, qui est malade, je lui souhaite de retrouver la santé. Renou.
Le bonheur, c'est d'avoir 3 mises à l'abri d'affilée.
Aujourd'hui, mon cœur ne fait que pleurer. À toi, je ne fais que penser. Dans tes bras, je veux me reposer, tout en te laissant respirer. Le bonheur, je veux te donner. Tes yeux, je veux voir briller. Pour toi, des montagnes, je gravirai. Des océans, je traverserai. Du temps, je veux bien te laisser. Mon amour, pour toi, je te prouverai. Jamais je ne te bousculerai. Je veux que main dans la main, on puisse avancer. Mes bras seront toujours là pour te porter. Jamais je ne te laisserai tomber.
Le Blabla Mix. Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Je regarde des films quand il y a des films à voir, mais s'il n'y en a pas, je vais pas m'emmerder au cinéma. Si je veux vraiment m'emmerder, je vais au théâtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma sur HDR. Bonjour Louis, bonjour Adrien.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Donc, cette semaine, actu rouennaise niveau cinématographique, nous avons ce soir, le mardi 26 mars, Barry Lyndon, le film de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, fameux réalisateur de films tels que Orange Mécanique ou encore Shining.
The Shining, ouais, voilà.
Donc Barry Lyndon, ça parle d'un soldat irlandais qui est engagé pour espionner un autre soldat, donc sur un fond de guerre du 18e siècle. De base, Kubrick était parti pour faire un film sur Napoléon, mais malheureusement, faute de moyens, il a dû se rabattre sur le roman de Barry Lyndon, car donc c'est un roman adapté d'un auteur dont j'ai oublié le prénom, mais c'est un ouais. Roman. Donc voilà, si vous voulez le voir, c'est ce soir à l'Omnia à 19h30. Il y a beaucoup de films qui repassent justement des anciens films. Là, c'est la version remasterisée de 2007. Donc
nous, on y va ce soir d'ailleurs. Donc voilà, c'est très intéressant, je pense, comme film à revoir au cinéma, surtout ce genre de classique. C'est vraiment intéressant à voir, quoi.
Bah oui, et puis ça permet de voir un peu le travail de Kubrick plus en largeur, on va dire. Puisqu'on parlait de films qui ressortent en ce moment à l'Omnia, on a par exemple le mardi 16 avril Voyage au bout de l'enfer, qui est un film réalisé par Michael Cimino. Ensuite, le mardi 7 mai, nous avons Les Producteurs, qui est réalisé par Mel Brooks, qui est sorti en 68. Et enfin, le 28 mai, nous avons Robocop, le bien connu Robocop,
ouais, voilà.
Le robot policier du futur, qui a été réalisé en 87 par Paul Verhoeven.
Ok, et puis alors tout ça, c'est dans le cadre des cinémas de quartier que l'Omnia organise, c'est tous les mardis soirs. Et alors justement, il y a un autre événement là qui va arriver, mais un peu plus tard. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est pour vous rappeler qu'il y a des choses qui se passent à l'Omnia. Mais là, il va y avoir le 20 juin, donc c'est pas tout de suite, mais c'était quand même une grosse annonce qu'ils avaient fait le soir des Azimuts quand il y avait eu le grand concours suédois. C'était en fait qu'ils vont repasser, ils vont rediffuser le film La Cité de la Peur parce qu'il a été restauré et numérisé dans une nouvelle version. Alors que en fait, ce film là il date de 94 et il n'y avait pas eu de version remasterisée. Voilà,
donc film référence à voir absolument. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille même de le voir au cinéma. Ouais. Au final, c'est un peu pour ça que l'Omnia organise ces cinémas de quartier, c'est pour justement qu'on puisse revoir ces classiques et ces films de référence dans un cadre bien plus agréable que sur un ordinateur.
Je regarde des films quand il y a des films à voir, mais s'il y en a pas, je vais pas m'emmerder au cinéma. Si je veux vraiment m'emmerder, je vais au théâtre.
Toujours dans le Blabla Mix et nous sommes toujours avec nos nouveaux chroniqueurs Louis, Adrien et Louis, voilà, de Louis. Et justement, c'est quoi la suite et surtout c'était quoi cette chanson, d'où ça sort, une petite dédicace au cinéma ou...
Ouais, alors là en fait c'est parce que on va juste parler après de ce qui vient de sortir au niveau des bandes annonces. Il y a eu le film de Tarantino,
Once Upon
a Time in Hollywood. Ouais. Et du coup ça c'est la musique de la bande annonce. C'était un petit clin d'œil et ça nous permet du coup d'en reparler parler après. Mais avant tout ça, on va reparler des sorties.
Bah ouais, voilà, on va parler des
moment.
Sorties qui arrivent. Bah, par exemple, demain la sortie de Dumbo de Tim Burton. Donc Tim Burton, réalisateur fantastique.
Ouais, ouais.
Voilà, donc il est pas à son premier coup d'essai à essayer de remasteriser un Disney avec son Alice, enfin ses deux Alice au pays des merveilles. Donc là, Dumbo, qui a 5e long métrage de Disney, donc assez compliqué. Donc avec Colin Farrell dans le rôle principal et bien évidemment les acteurs phares de Tim Burton. Quelques Michael Keaton qui a pu jouer Batman pour lui, ou encore Eva Green dans Miss Peregrine pour ses films les plus récents. Juste moi j'ai envie de donner un petit peu mon avis sur ce que je pense en amont de ce film. Donc moi il y a beaucoup de films de live action qui ressortent,
ouais,
des films de
Roi Lion,
il y a le Roi Lion, il y a justement Aladdin
ouais.
Parce que justement Tim Burton voulait Will Smith dans le rôle principal, mais il était trop occupé sur le...
Excusez-moi, vous trouvez pas que c'est quand même une mauvaise idée ce Will Smith là en génie?
Ouais, voilà,
disons que la bande annonce n'était pas la plus prometteuse du monde, mais
c'était un petit peu dommage quand même.
Faut voir ce que ça peut donner après, on peut pas juger tant que le film n'est pas sorti.
Mais bon, c'est la chose de tous ces films de live action Disney, c'est un peu aussi, c'est aussi refaire découvrir un peu aux plus jeunes tous les films que nous.
C'est sûr, c'est
nous,
sûr.
Parce que bon, 41, je rappelle Dumbo, donc c'est quand même.
Ouais, c'est quand même assez ancien.
Ouais, enfin, certains d'entre nous l'ont vécu, hein, donc on ne va pas non plus jeter la pierre.
C'est vrai.
Et donc ensuite, après, là, il y a d'autres petits films qui viennent de sortir, qui sortent demain, hein, parce que c'est les sorties du mercredi. Il y a Boys Erased, qui est réalisé par Joel Edgerton. Je connais absolument pas ce réalisateur, mais par contre, dedans, il y a Nicole Kidman, grande actrice, et ça parle de l'homosexualité dans un milieu très, alors je crois que c'est catholique et c'est aux États-Unis, alors ça peut peut-être être même autre chose que le
très
catholique.
Conservateur quoi.
Très conservateur, et donc il y a ce truc là de coming out dans une famille un peu qui est contre cette idée là et qui refuse complètement l'homosexualité, et donc je pense que ça peut être super intéressant, très intéressant de voir ce film. Je suis passé dessus comme ça, et voilà. Ensuite, il y a aussi Ça, c'est l'amour de Claire. Alors, attention, c'est Claire Burger, même si ça s'écrit Claire Burger, bien sûr, attention. Avec, alors, j'ai plus les noms en tête, mais les acteurs sont pas très très connus. Mais par contre, là, ça parle, c'est aussi un film drame. Ça parle d'une mère qui a abandonné ses enfants, et du coup, ça raconte l'histoire d'un père qui doit élever ses deux filles. Ça parle d'amour, de famille, etc. Donc, ça peut être une bonne séance, quoi. Je pense que ça peut être un bon petit film.
Pas cette semaine, mais la semaine prochaine, Shazam sort, donc Shazam héros...
La plateforme...
Google, il faut pas faire l'amalgame.
Dommage.
Shazam, donc c'est l'histoire d'un enfant qui se retrouve finalement doté de pouvoir magique après la rencontre d'un vieux sage grec. Là comme ça c'est pas super bien vendu,
ouais.
C'est
égyptien
bon, ah peut-être, ouais. Enfin bon, c'est quelque chose d'antique, en tout cas c'est quelque chose d'assez ancien.
Mais
et donc quand
affaire.
Il prononce le mot Shazam, il se transforme en super héros, donc taille adulte, on peut le dire. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce film, c'est que on assiste à comment dire, la vie d'un héros avec une mentalité d'enfant, donc c'est très fun. Ça se sent dans les bandes annonces qui sont sorties que c'est tourné vers de l'humour, ouais. Avec de l'action, hein, évidemment. Ça reste un film de super-héros.
Ça a l'air d'être un peu dans le même thème que Deadpool ou ce genre.
Voilà,
de
en fait, ouais, en fait, c'est le Deadpool du DCU.
C'est
pour continuer sur la, comment dire, l'opposition entre Marvel et DC, quoi.
Même si DC a du mal, moi à titre perso, j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à rivaliser.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
ils ont un train de retard, tout simplement. C'est les deux premiers films l'expliquent très bien. C'est que là où Marvel a fait plusieurs films sur chacun de ses personnages, il y a eu Hulk, Iron Man et Thor et Captain America aussi, avant le premier Avengers. Là, on a eu Man of Steel, le premier du coup du DCCU. Donc on a eu Man of Steel, et directement après, on a eu Batman versus Superman. Donc il y avait déjà
gros. Voilà. Il était pas ouf ce film. Hein,
non, clairement
ça
pas.
Ça a fait un flop un peu.
Ouais, quand même un petit peu.
Après, je comprends aussi qu'ils aient pas eu envie de refaire un film sur Batman, sur les origines de Batman, parce qu'il y a quand même les films de Nolan qui sont là, et je veux dire, l'univers Batman, c'est tellement inscrit dans la pop culture, je comprends qu'ils aient pas eu envie de faire un film sur Batman et ses origines, mais bon, là, faire directement un film d'affrontement là où Marvel l'a fait avec Civil War après, moi je trouve ça dommage. Et après, ils ont fait la Ligue des Justiciers, alors que voilà, et c'est vrai qu'ils sont légèrement en dessous de l'univers Marvel qui pour l'instant a tout fou. Raflé. A tout
c'est
raflé.
Lui qui innove. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et d'ailleurs,
En parlant de Marvel, il reste à l'affiche le Captain Marvel.
Qui est en tête du box-office. Hein,
bon, en même temps, vu la com qu'il y a eu autour, c'est sûr énorme. Que ça allait exploser.
Et donc après, il y a aussi Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan.
Qui est toujours à l'affiche.
Et donc après, il y a aussi Us, qui est...
C'est par le réalisateur de Get Out.
Ouais, voilà. Film d'horreur.
Film, pas forcément d'horreur, mais en tout cas...
Un thriller,
quoi.
J'ai vu pas mal de com aussi là-dessus, mais je me suis pas plus intéressé. Et il y a aussi Convoi exceptionnel, qui est réalisé par Bertrand Blier, qu'on a entendu au début de la chronique. Bertrand Blier, il a fait Les Valseuses, tout ça. Là, c'est avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Donc ça peut être étonnant, on peut voir, mais je pense que ça
fait longtemps qu'on a vu Gérard Depardieu et Christian Clavier.
Depuis Astérix et Obélix, je crois qu'il y a vraiment.
Ça marchait bien à cette époque-là, donc pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui?
C'est ça.
Eh bien, écoutez, merci les gars.
Merci à toi. C'était un réel plaisir.
Ah bah écoutez, peut-être la semaine prochaine, on ne sait jamais.
Pour parler des prochains. Pour que notre contrat soit renouvelé.
Ouais. On se laisse avec une petite pause musicale avant de revenir dans le Blabla Mix sur le 99.1.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Eh bah non, pas de pause musicale en fait.
Tu as pris, t'as fait une révolution, Jérémy.
C'est moi le réalisateur aussi. Hein.
Bah ouais, non, mais je vois ça direct, tu te mets derrière la bande, derrière les machines et tu dis bah vas-y. Non, elle a dit pause musicale, bah je mets pas pause musicale.
On laisse Loïc faire sa chronique et je mets ta musique après.
Tu seras notre pause musicale, Loïc.
Ouais, super. Je sais pas si tu veux gagner ou changer, je te l'avoue tout de suite.
Non, bah on fait juste un échange.
Tu peux pas la faire en chantant?
Ah ouais.
Tu veux le retour de la pluie pour toute la semaine à venir ou pas?
Non, il fait beau, arrêtez les gars. Vas-y Loïc, dis-nous tout, tu es là pour emploi, conseil et formation parce que c'est ton nouveau terrain de chasse, hein, très clairement.
Exactement, sauf le lundi, hein, t'as vu, je réduis un petit peu la voilure. Hein,
ouais, non mais c'est bien, genre au fur et à mesure, tu vas être que sur conseil, emploi, conseil et formation, tu vas nous faire un truc de 20 minutes, nouvelle émission.
Magnifique.
Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
En effet Marie, le mardi 2 avril prochain aura lieu la 6e édition des ateliers alternance et emploi d'été. Le but de cette initiative est d'aider tout simplement les lycéens et les étudiants en situation de handicap dans leur poursuite d'études et aussi dans le cadre de leur insertion professionnelle. Mais avant d'en savoir plus sur cet événement, retrouvons donc Marion Matchkin, chargée de mission autisme et chargée de mission à Handisup Normandie, nous dire tout d'abord quelques mots sur l'association Handisup.
Handisup Normandie, donc c'est une association qui a fêté ses 20 ans l'année dernière, association reconnue d'utilité publique. Et donc notre objectif, notre mission principale, c'est d'accompagner les étudiants en situation de handicap dans leurs études supérieures. Alors on peut également accompagner des lycéens pour tout ce qui va être mission d'orientation. Donc comme je le disais, les étudiants pendant leurs études supérieures, donc avec la recherche de stage, d'alternance, d'emploi d'été notamment. Et puis, on accompagne également vers l'emploi, donc après les études.
Et un rendez-vous soigneusement préparé en amont avec les entreprises partenaires, ainsi que les étudiants qui se sont inscrits préalablement à ces rencontres, comme nous le précise Marion Matchkin.
Alors déjà, au niveau de la préparation des ateliers, donc c'est vraiment toute l'équipe de Handisup qui va avoir une action donc sur ces missions de préparation. Donc déjà auprès de nos partenaires, puisque les entreprises qui sont présentes à cet atelier-là sont uniquement des partenaires de l'association. Donc faire avec eux leur inscription, leur proposer de les accueillir au mieux sur cette journée-là, donc recenser également leurs besoins de recherche en alternance et en emploi d'été. Donc ça, c'est ce qui va être surtout fait au niveau des entreprises. Au niveau des étudiants, donc on a la préparation aux entretiens qui s'est déroulée le vendredi 22 mars pour justement entraîner nos étudiants qui se sont inscrits à cet atelier à faire des entretiens. Ce qui est déjà un exercice compliqué pour un étudiant lambda. Donc on essaie au maximum de les préparer. On a fait un petit travail rapide sur ce qu'était l'entretien, puis ensuite on les a mis en situation. On va aussi travailler avec les étudiants leur CV, puisque ça va être important pour le recruteur d'avoir un CV correct. Et puis c'est vrai que c'est quand même un travail qui peut être compliqué. L'étudiant peut parfois faire son premier CV de recherche. Donc on va l'aider dans cette démarche-là aussi. Et également la lettre de motivation si besoin, notamment pour les alternances.
Des entreprises partenaires toujours en nombre et dans divers secteurs qui restent fidèles à ces ateliers alternance et emploi d'été. Au vu du bilan très positif de la précédente édition, Mario nous en dévoile ainsi les résultats de la 5e édition, c'était en 2018.
Sur la 5e édition, donc les ateliers de 2018, on a recensé 19 emplois d'été auprès de nos entreprises partenaires et 4 contrats en alternance qui ont été signés donc avec nos étudiants. Sachant que nos recherches ne s'arrêtent pas à cet atelier non plus, on continue en amont et puis après cet atelier également à faire les recherches, donc les chiffres ne cessent d'augmenter tout au long de l'année.
Et les étudiants, dans tout ça, vous allez me dire, se sont-ils également préparés à cette rencontre avec les professionnels présents lors de ce forum ? Le Blabla Mix est également allé à la rencontre de Jordan Sparambert, en deuxième année d'assistant manager au lycée Gustave Flaubert. Il nous raconte pourquoi il s'est inscrit à cet événement et comment il a abordé ses futurs entretiens.
J'ai eu l'opportunité de participer à cette journée pour me réorienter professionnellement dans le domaine du transport et ainsi continuer à garder un certain contact avec les entreprises partenaires de Handisup afin de pouvoir espérer un débouché sur un job d'été ou sur un futur emploi par la suite.
Comment comptes-tu te préparer afin de participer à cet événement ?
Alors, on a eu une journée organisée le vendredi 22 mars. C'était pour nous préparer aux entretiens qu'on allait avoir le mardi 2 avril. Et on avait un cours d'une heure et demie sur les choses à dire et à ne pas dire, ou à faire et à ne pas faire lors des entretiens individuels. Et ensuite, il y avait des simulations d'entretiens afin de se préparer au mieux aux questions du recruteur.
Et je peux vous assurer que Jordan est aussi à l'aise au micro que pour ses rencontres. Il nous confie d'ailleurs son ressenti à quelques jours de l'événement.
Un petit peu stressé, mais dans l'ensemble plutôt à l'aise, car c'est pas mon premier entretien et c'est pas non plus mon premier forum. Donc j'ai eu l'habitude de rencontrer pas mal de patrons de différentes entreprises. Du coup, je sais un petit peu comment formuler ma demande et comment m'exprimer.
Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple d'entretien que tu as pu faire dernièrement ?
Alors, un entretien que j'ai pu faire dernièrement et qui m'a été favorable, c'est aux ambulanciers du CHU. La semaine dernière, j'ai rencontré le directeur des ambulances du CHU et en lui expliquant ma situation de ma reconversion professionnelle, il m'a accepté de me prendre en stage 2 jours en ambulance et 3 jours en coursier sanguin afin de pouvoir rebondir dans ma reconversion professionnelle et pour me donner ma chance pour trouver mon secteur d'activité.
Un grand merci bien évidemment à Marion et à Jordan de nous avoir accordé ces quelques minutes. Rendez-vous donc à la Maison de l'Université le 2 avril prochain dès 13h30 pour la 6e édition des ateliers alternance et emploi d'été. Plus d'infos sur Handisup l'association et sur cette initiative sur le www.handisup.asso.fr.
Eh bien merci Loïc, c'était complet et on en sait un peu plus sur Handisup. Voilà, c'est pas forcément la chose dont on parle le plus, donc merci, c'est sympa d'en avoir parlé. Et maintenant, Jérémy, est-ce que tu vas me la donner, cette
pause
musicale ?
La musique, tant promis. Eh bien, je te propose le morceau Hexagone de Renaud pour se mettre un petit peu dans le bain.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles. Ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Et c'était Renaud avec le morceau Hexagone.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Il est 17h34, vous êtes toujours sur le 99.1 ou sur le 102.4 pour Évreux ou sur le 95.9 pour le sud de l'Eure, ça dépend. Ben, ça dépend tout simplement d'où vous vous trouvez. Et maintenant, il est temps d'accueillir notre invité, Nicolas, bonjour. Comment vas-tu ?
Bien et vous ?
Bah écoute, ça va très bien. Et du coup, Nicolas, es-tu venu nous parler ? C'est mieux quand on met les mots dans l'ordre. De quoi ou de qui es-tu venu nous parler aujourd'hui ?
Je crois être venu pour Rouen dans la rue.
Et du coup, qu'est-ce que c'est, Rouen dans la rue ?
Est-ce que tu veux que je fasse tout de suite une espèce de genèse ou bien je fais une petite synthèse de ce que c'est ?
D'abord,
ou...
La synthèse. Ensuite, on partira vers la genèse.
Rouen dans la rue, on peut dire que c'est un espèce de média indépendant et local. Qui a pour sujet principal la question du mouvement social et contestataire sur Rouen et alentour, voilà, qui existe depuis 5 ans maintenant.
D'accord. Et du coup, quand est-ce que vous avez commencé, du coup, il y a 5 ans? Mais pourquoi, peut-être? Peut-être qu'il y avait une raison ou simplement une envie qui est née comme ça?
En fait, en octobre 2014, il y a Rémi Fraisse qui a été tué par les gendarmes. Donc, c'était un militant écologiste sur la ZAD de Sivens. En fait, il y avait un projet, donc c'est la ZAD de Sivens, c'est près de Toulouse. En fait, il y avait un projet de barrage là-bas, donc il y avait des opposants un peu dans le... Voilà, qui s'étaient installés sur place sur la thématique ZAD, quoi, comme on a pu la connaître à Notre-Dame-des-Landes. Et voilà, du coup, il y a eu un drame, c'est-à-dire qu'un gendarme a tué un des militants. Et de là, il y a eu une espèce de mouvement de contestation qui a pris un peu partout en France, notamment à Toulouse et Nantes, qui étaient un peu deux points névralgiques de ce mouvement-là. Mais à Rouen, il y a eu aussi des choses, et en fait, on a monté une page Facebook initialement, donc qui s'appelait Rouen dans la rue, pour justement relayer un peu les manifestations, les actions, les rassemblements qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, disons, dans ce mouvement voilà, qui était voué, voilà, à dénoncer un peu cette violence de la police, etc. Et puis après, une fois que ce mouvement s'est éteint, on a continué à faire tourner la page voilà, en relayant un peu tout ce qui se passait sur le plan, on va dire, des luttes salariales, étudiantes, mouvements sociaux, enfin, lycéens, etc., etc., quoi.
Marie, tu me permets que je m'incruste dans ton interview?
Non, bah de toute façon, c'était déjà prévu, donc c'est pas grave.
Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres pages? Genre, il y a Rennes dans la rue, il y a Strasbourg dans la rue, je pense qu'il y a d'autres dans la rue. Il y a une connexion ou c'est juste
parce que tout le monde a des rues.
Le suffixe dans la rue qui a bien marché à ce moment-là?
Bah disons que ce type de page a vraiment été amorcé, on peut dire, avec Nantes révoltée. Qui est, voilà, qui est l'une des grosses pages influentes un peu du même type. Et après, l'espèce de label Rouen dans la rue, enfin, la ville dans la rue, on peut dire qu'on est un peu les initiateurs de ce truc-là.
Ah.
et de fait, il n'y a pas un lien direct entre toutes ces pages qui s'expriment un peu de la même manière que nous, mais ouais, de fait, il y a un peu une espèce d'homogénéité, on va dire un peu politique, des positions communes sur pas mal de choses, bien qu'il y ait des subtilités, mais grosso modo, il y a eu toute une profusion de pages à compter notamment de 2016, en fait, où il y a eu le mouvement contre la loi travail, qui a été un mouvement qui a participé, en fait, à la politisation d'une grande part de la jeunesse lycéenne et étudiante. Et de là, il y a eu pas mal de groupes qui se sont constitués, de jeunes, moins jeunes, voilà, des gens qui refusaient, on va dire, la politique classique ou les manières instituées de contester l'ordre établi, quoi, et qui se sont mis un peu à voir les choses autrement, descendre dans la rue, se réapproprier un peu des codes de la contestation. Enfin, notamment à Paris, il y a un groupe qui s'appelait le Mili, Mouvement Interlutte Indépendant, qui a été notamment l'un des groupes en 2016 qui a un peu redynamisé la question de la subversion dans la rue, qui est venu un peu rajeunir toute cette vieille manière de contester l'ordre, quoi, qui était incarnée par les syndicats et le mouvement social classique. Et du coup, de là, il y a eu un peu une profusion de groupes voilà, qui se sont montés un peu partout en France, et on a découlé aussi des pages Facebook telles que Rouen dans la rue, Nantes révoltée, etc., etc.
Mais l'homogénéité, elle est spontanée, quoi. C'était pas quelque chose de forcément réfléchi et d'explicite entre les gens.
Voilà, c'est ça. Exactement. Okay.
Et du coup, justement, est-ce que c'est arrivé que vous vous réunissiez entre pages, entre, on va dire, administrateurs de la page, ou même juste pour parler, échanger un peu, ou vous faites un peu chacun dans votre coin, vos trucs?
Je pense qu'il y a un peu des gens qui se connaissent entre ces différentes pages. Après, de fait, il y a un peu une source d'inspiration qui se fait un peu spontanément. On voit qui a publié quoi, et puis il y a un peu, ouais, il y a un peu des styles qui émergent un peu du fait même de l'existence de ces pages. Et parfois, voilà, enfin, globalement, comme toutes ces pages ont un peu les mêmes raisons d'existence, on peut dire que souvent elles se retrouvent un peu sur les mêmes sujets dès qu'il se passe quelque chose en France qui relève de la violence policière ou d'un mouvement social, etc. Généralement, tout le monde monte au créneau et voilà, chacun y va de son texte, de son visuel, de sa vidéo, etc. pour parler de l'événement, quoi.
Ok. Et du coup, vous avez commencé en 2014 avec une page Facebook, mais maintenant, Rouen dans la rue, c'est quoi? Est-ce que vous avez évolué ou est-ce que vous restez toujours sur la page Facebook? Comment ça se passe?
Ouais, on a démarré avec la page Facebook et rapidement, le truc qui est important à préciser, c'est que l'émanation de cette page Facebook, elle n'est pas déliée de notre implication réelle dans les mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé ce truc-là, c'était pas comme journaliste où il n'y a pas une idée d'objectivité par rapport à la situation, quoi. L'idée, c'est quand même un média, on va dire, qui part du mouvement. Et donc voilà, donc il y a eu cette nécessité un peu rapide de faire une page Facebook, mais l'espèce de... Enfin, le truc qui est génial, c'est que ça a renouvelé un peu la manière de diffuser des contenus, quoi. Disons que dans la politique un peu à l'ancienne, voilà, tu fais des tracts, des affiches, tu colles des trucs sur les murs, tu vas à la sortie des usines, etc. Et en fait, ce médium-là était un peu désuet, on peut dire. Et en fait, Facebook, ça a permis de toucher énormément de gens. Voilà, en quelques clics, tu fais une photo, un visuel, quelque chose de viral. Et très rapidement, tu dépasses largement le cadre militant et des personnes qui, voilà, qui connaissent déjà ces réseaux-là. Mais le truc n'est pas hyper cool, c'est que Facebook est... Comment dire, ces contenus sont hyper périssables. C'est-à-dire qu'en fait, si tu rates une photo dans le fil d'actualité, voilà, ça se perd dans les méandres des réseaux sociaux et très rapidement, t'as pas la question de la mémoire, t'as pas la question de la sauvegarde. Et donc, on a décidé de faire un format papier, donc un magazine, là c'est déjà le quatrième numéro, et aussi un site internet pour nous prévenir d'une potentielle suppression de la page, ce qui nous est arrivé d'ailleurs en janvier, on a remonté une page début février. Et voilà, du coup, on a créé d'autres contenus en fait pour faire perdurer le média indépendamment de l'obsolescence de Facebook.
Mais justement, du coup, votre page Facebook s'est faite supprimer. Est-ce que vous avez su à peu près pourquoi ou juste un jour vous avez voulu vous connecter et c'était plus là ?
Ce qu'il faut rappeler déjà, c'est qu'on utilise, c'est un média anonyme. Du coup, on utilisait des techniques pour que ce soit effectivement le cas. Et pour pas que les IP soient repérés et ainsi de suite. Sauf que ce qu'on imagine en fait, c'est que Facebook a resserré ses algorithmes quant à la vérification des profils réels ou non. Et je pense qu'ils se sont assez rapidement, finalement aperçus que Ronan Larue était géré par un profil fake, quoi, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça a mis automatiquement une espèce de mesure de sécurité qui a entraîné la suppression de la page. Donc voilà, donc en fait, c'est une espèce de répression technique de Facebook, mais on pense que c'est quand même lié un peu à la situation actuelle, la situation politique un peu, qui connaît quelques zones de turbulence actuellement en France, quoi.
L'anonymat sur Internet, c'est de moins en moins bien vu. Ouais, anonyme, et puis c'est de moins en moins bien vu, surtout sur Facebook, qui demande les numéros de téléphone, qui détecte si t'as pas un vrai prénom, des trucs comme ça. C'était ma petite...
D'accord, non, je pensais que ça allait déboucher sur une question.
Du coup, pour repartir sur le magazine, il était censé sortir en octobre, a priori.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, dis donc ?
Effectivement, depuis qu'on a sorti la version papier, on s'était dit qu'on les sortirait plus ou moins tous les 6 mois. Et le fait est que, déjà l'année 2018, il s'est passé des choses en 2018, des choses très intéressantes, mais en fait, en novembre 2018, il y a eu l'émergence du coup des Gilets jaunes. Qui est venu chambouler un peu le calendrier.
Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas.
Et du coup, dans ce numéro, on s'est quand même dit qu'on retracerait ce qui s'est passé en 2018, parce qu'il y a quand même des choses, y compris localement, qui ont été significatives. Et effectivement, ça a pris un peu de retard, parce qu'on a été nous-mêmes emportés par le mouvement des Gilets jaunes. Du coup, ça a perturbé un peu le calendrier de sortie, quoi.
Et pour ce magazine, c'est des articles, voire même on peut appeler ça des dossiers. Il y a les photos, il y a la mise en page, il y a la façon dont il est imprimé. Il est digne d'un magazine professionnel qu'on pourrait acheter en librairie, enfin, je trouve. Mais c'est quoi l'équipe derrière tout ça ? Et est-ce qu'il y a une recherche de rentabilité ? Ou c'est juste pour l'acte militant ou,
Déjà, l'équipe derrière tout ça, on peut dire qu'il y a... un noyau de quelques personnes, 2, 3, 4, ça dépend. Et puis, un cercle plus large de personnes contributrices. Donc, ça peut être des personnes qui envoient des photos, des textes, des analyses, etc. Enfin, voilà. Du coup, c'est quand même un gros boulot. Enfin, en tout cas, autour de ce noyau, il y a quand même un gros taf pour à la fois tenir quotidiennement la page Facebook, écrire des choses un peu plus longues, mettre en page les magazines, etc. Et voilà, ouais, derrière ce magazine, il y avait, comme je disais un peu précédemment, il y avait l'idée de sortir un objet physique, réel, qui permette de dépasser un peu l'obsolescence du réseau social et de Facebook. Et de l'autre côté, voilà, il y a aussi il y avait l'idée de pouvoir fournir aussi des dossiers un peu plus, comme tu disais, des dossiers, des articles un peu plus longs que l'espèce de limite aussi du contenu Facebook, qui va être limité à quelques caractères, des images, des visuels, des choses comme ça. Voilà. Après, autour de la question de la rentabilité, donc on le vend à 3 euros, et en fait, c'est le prix de revient, c'est le prix de revient du magazine. Du coup, voilà, nous, l'idée, c'est juste de faire circuler cet objet-là, de ne pas perdre trop d'argent, parce que de fait... tout le monde nous paye pas, et puis voilà, enfin des fois on le fait circuler comme ça, on l'offre à plein de gens, et puis du coup non, il n'y a pas de logique de rentabilité derrière, en tout cas autour de ce magazine. Après voilà, sur le site internet on a fait un appel à dons aussi, parce que pour financer les appareils photos, enfin tout le matos qui peut nous servir direct, enfin quand on voilà, quand on va sur le terrain. Du coup voilà, pas de logique de rentabilité, on essaie de voilà de trouver un peu d'argent à droite à gauche pour pouvoir disons permettre en tout cas la survie du média quoi.
Mais du coup, justement, comment est-ce que vous vous organisez pour créer un magazine ? Parce que du coup, la page Facebook, les contenus se passent très souvent. Enfin, il y a beaucoup de contenus qui sont publiés. Du coup, comment est-ce que vous faites pour sélectionner que quelques articles qui seront publiés dans le magazine ?
Bah, soit au cours des soit pendant le, disons, dans les mouvements ou au quotidien, soit parfois il y a un peu des analyses qui ressortent, des textes un peu plus élaborés, et du coup ceux-là peuvent être sélectionnés pour le magazine. Ou parfois, quand on a la sortie du magazine en vue, on peut se dire, tiens, là, il faudrait sortir absolument un bel article sur tel et tel sujet, avoir un bel édito qui retranscrit un peu les 6 mois qui sont passés. Enfin, du coup, généralement, c'est avec l'objectif de sortir d'un magazine, il y a à la fois un taf de sélection des magazines, enfin des articles déjà parus, et puis parfois des sujets qui sont incontournables et voilà, sur lesquels il faut absolument dire quelque chose, quoi.
Bien, écoute, je vais vous avant de revenir pour parler un peu plus du magazine et peut-être même un peu de votre lien avec les Gilets jaunes, et bien je vous propose de partir un peu en musique. Voilà, qu'est-ce que tu nous proposes, Jérémy ? Quelque chose en lien ou pas du tout ?
Ouais, c'est un petit peu en lien. C'est un artiste qui s'appelle Osama, c'est du rap, et le morceau s'appelle Patricia Cass.
Mais qui a ramené Patricia ? Mais qui a ramené Patricia ? Mais qui a ramené Patricia ? Ok. Expérience de mort imminente, sous grenade lacrymogène. Je remercie police française pour ce trip hallucinogène. La République est en marche, je fais le moonwalk. L'oppression, les mondes parallèles, en même temps ça fait tout drôle. Soudain le temps s'est ralenti, l'expérience de la lutte s'est agrandie. Dans la bêtise des keufs s'égalent entre eux, manifestants font preuve de galanterie. Distribution de colliers contre les larmes de la colère. Un peu de police pour que la révolte s'agglomère. Pour une fois que quelque chose est gratuit, on va pas se plaindre. Ça rêve des Champs-Élysées dans tout Paris, ça chante Joe Dassin. Et des hymnes anticapitalistes, on est taquin. Rappeur sensible exige de suite un gros câlin. En plein hiver, Paris reverdit. Sur les vitrines fleurissent de jolis mots d'esprit. Banque taguée ou cassée, Porsche cramée. Sans tarder, gilets jaunes tiennent le haut du palais. En sécurité avec mes émeutiers qui marchent eux aussi pour l'écologie. Pas une voiture ne circule, c'est le pied. Par contre ils ne font pas dans le tri sélectif. Je suis de sortie avec Patricia. Je suis de sortie avec Patricia. Je suis de sortie avec Patricia. Sauf que Patricia casse. Gilets jaunes rigolent avec Patricia. Gilets jaunes tricotent avec Patricia. Gilets jaunes ripostent avec Patricia. Sauf que Patricia casse. On a fait trembler les bourgeois en restant courtois. Barricade, feu de joie. Si tu me parles, je te vous vois. Si tu me parles, je te vous vois. Si tu me parles, je te vous vois. Bourgeois et moi ne sommes pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Ils voient une émeute, moi je vois de l'ordre. Je vois de l'ordre, je vois de l'ordre. Bourgeois et moi ne sommes pas d'accord. Toujours pas, toujours pas. Là où ils voient du feu, moi je vois l'aurore. Bourgeois et moi, on aime les bons crus. Saint-Émilion. On a même en commun des lectures. Mais on n'est pas du même côté de la barricade. C'est chaleureux et amical. Putain, 500 000 euros pour de l'argenterie. L'argenterie. Le peuple s'inquiète, montre-nous la garantie. Garantie. 300 000 euros pour de la moquette. La moquette. Ton revendeur ne m'a pas l'air très honnête. Très honnête. J'espère que ta vaisselle est incassable. À ce prix-là, incassable. Et que ta moquette n'est pas inflammable. Avec ta tête de premier de la classe. Ça sent la douille, on veut vérifier. Ouais. On veut t'éviter de te faire niquer. Ouais. Donc on a ramené les briquets. Ouais. Laisse-nous rentrer à l'Elysée. S'il te plaît. Pour la moquette, on laissera dehors Patricia. Patricia, Patricia. Parce que Patricia casse. Ouais, ouais, ouais. Parce que Patricia casse.
Patricia Cass, du rappeur Osama. Vous êtes toujours sur le Blabla Mix en compagnie de Nicolas de Rond dans la rue jusqu'à 18h. Et donc, je joue les apprentis animateurs devant les yeux ébahis de Marie.
Ébahis, je sais pas, mais je te regarde en tout cas.
Nicolas, Rond dans la rue, vous avez suivi les Gilets jaunes dès le départ du mouvement, quasiment dès le départ en tout cas quand ça se manifestait à Rouen. Tandis que quand même beaucoup de voix de la gauche, tu seras pas vexé si je t'inclus dans la gauche, était plutôt réticente. T'as quelque chose à commenter là-dessus? Ça s'est fait comment? Vous aviez réfléchi? C'était spontané?
Mais déjà, nous, on en a entendu parler en fait fin octobre, quand voilà, sur les réseaux, ça a commencé à... Voilà, il a commencé à avoir une profusion de visuels avec des gilets jaunes, des plaques d'immatriculation plein le cul, etc. Enfin, ça, c'était les gros drapeaux bleu, blanc, rouge, etc. Enfin, voilà, c'était les gros visuels, les gros trucs à la mode du début. Et du coup, là, nous, on sortait d'une année où, comme je disais, en 2018, il s'est pas passé des trucs de malade dans la rue, alors que Macron, depuis son élection, a commencé à tout défoncer méticuleusement. Et en fait, la réponse dans la rue n'était pas du tout à la hauteur, que ce soit avec les cheminots, les syndicats, même sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où finalement, ça a été quand même un échec sur le terrain militaire, disons. Parce que voilà, 2500 gendarmes et 6 blindés, ça fait pas forcément du bien. Et finalement, on voit ce truc émerger sur les réseaux avec comme revendication la question du carburant. Et très rapidement, beaucoup de gens, effectivement, comme tu dis, de la gauche, qui ont commencé à commenter ce truc-là en étant hyper hostile. Voilà, en disant non, en fait, historiquement, ça c'est la revendication contre les taxes, c'est quelque chose de droite, c'est ce qu'on disait à ce moment-là, poujadiste, voilà, enfin des références voilà, à la droite conservatrice. Et aussi parce qu'avec tous ces visuels plein le cul et drapeau bleu, blanc, rouge, il y avait le côté un peu beauf, raciste, etc. qui ressortait. Et finalement, nous, on se disait, on ne peut pas tirer de conclusion si hâtivement, quoi. Il faut aller voir ce qui se passe. On pense qu'effectivement, une revendication qui est si transversale à la société française, peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Et en fait, il faut aller voir. Du coup, on a commencé, notre premier rapport à ce mouvement, ça a été d'essayer de dégonfler un peu l'hostilité de la gauche, quoi, de dire non, mais en fait, non, c'est la curiosité nous qui nous porte, il faut aller voir. Et en fait, il y a eu des premières, justement, des réunions d'organisation avant le 17, hein, qui ont eu lieu à Rouen. Et voilà, on est allé voir, et en fait, c'était ça déjà la première grande surprise de ce mouvement, c'était de ne voir aucun militant connu, enfin, justement, aucune structure de la gauche classique ou des militants habituels qui sortent jamais vraiment de leur schéma. Et finalement, c'est ça qui faisait du bien dès le départ, quoi. C'est de voir un peu des nouvelles personnes prises par une espèce d'élan, une espèce de conviction, et avec l'idée de se bouger dès le 17 novembre, et surtout avec l'idée de gagner, quoi, vraiment. Et ça, c'est ce qui fait la grosse différence avec les structures contestataires classiques, quoi. C'est qui parlent généralement un peu défaitistes.
Et justement, tu n'as pas d'autres questions, Jérémy ?
Si, tout à fait. C'était par pur esprit d'égalité.
Oh, c'est beau.
Alors, on peut dire quand même qu'il y a eu un nouveau départ après votre suppression Facebook. En plus, c'est tombé en plein dans l'actualité. Est-ce que pour Rouen dans la rue, il y a un avant-après Gilets jaunes en termes de public, de façon de publier ?
Je crois que pour bon nombre de ceux qui se posent la question de la révolution un peu sérieusement, ouais, il y a un avant et un après Gilets jaunes. Parce qu'un certain nombre de révolutionnaires convaincus étaient effectivement hostiles à l'égard des Gilets jaunes au début. Certains le sont restés parce que certains sont attachés à une espèce d'idée de pureté autour de la question révolutionnaire. Donc pour nous, il y a vraiment, c'est sûr, un avant et un après Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes sont venus un peu chambouler toutes les espèces de... Voilà, toutes les habitudes de la contestation classique, quoi. Donc, pour nous, il y a... Enfin, en fait, notre implication dans le mouvement, enfin, comme je disais un peu précédemment, c'est que le Rouen dans la rue n'est pas absolument extérieur au mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on y participe. Du coup, on parle aussi depuis l'intérieur. Nous, on a essayé aussi d'adapter un peu nos... Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont advenues dans ce mouvement, qu'on portait déjà de manière minoritaire dans des mouvements passés. Comme par exemple la question du blocage économique, la question de l'affrontement, enfin de l'assaut envers les symboles du pouvoir, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui se sont imposées d'elles-mêmes parce que les Gilets jaunes étaient portés par l'idée de victoire, et que de fait, c'est des techniques qui pèsent en tout cas dans le rapport de force. Et on a effectivement un peu adapté notre discours à la situation. On a senti qu'on s'adressait plus seulement à des professionnels, des militants professionnels, mais aussi à des gens qui, pour certains, sortaient dans la rue pour la première fois. Enfin, je parle dans le cadre d'une manifestation ou d'un blocage. Du coup, effectivement, on a réactualisé un peu toutes les évidences qu'on partageait déjà, dans les sphères un peu militantes. Voilà, on les a un peu réactualisées et mis à la portée de tous et de tous les Gilets jaunes.
Finalement, la suppression Facebook, elle a eu une espèce de synchronisation, de résonance avec ce qui se passait en France. C'est quand même marrant.
Bah ouais. Enfin, après la suppression, il y a un avant, un après Gilets jaunes. Après la suppression, pour le coup, ça a été vraiment c'est très très chiant.
Ouais.
Dans le sens où y avait quasiment 19 000 abonnés à la page pour une page locale, enfin une page de Rouen qui est quand même pas une si grosse ville. Du coup, on avait quand même une certaine influence. Et surtout, il y avait une espèce de continuité, hein, comme ça faisait 5 ans que cette page existait, on touchait en fait différents mondes, quoi, monde politique, monde sociaux, etc. Et là, finalement, repartir de zéro, ça a été quand même un coup dur. Ça a été un coup dur, quoi. Du coup, là, on essaye de remonter gentiment la pente, quoi. Mais voilà, comme on avait déjà produit d'autres, comme on n'était pas juste adossé à la page Facebook et qu'on avait le site internet, le magazine, etc., et aussi une implication réelle dans les mouvements, ça a fait que voilà, on commence à revenir dans des chiffres corrects, quoi.
Et ce nouveau public qui n'est pas habitué au code de la lutte d'extrême gauche, etc., vous en êtes rendu compte ici à Rouen. Est-ce que tu penses qu'on peut observer la même chose chez Nantes Révoltée et puis tous les médias qui sont plutôt extrême gauche en France, que les Gilets jaunes vont se mettre à lire des choses que les gens, en fait, se seraient pas forcément intéressés avant?
Déjà, ouais, ce qu'il faut remarquer avec les Gilets jaunes, c'est que dès le départ, il y a eu une grosse hostilité à l'égard des médias de masse, de BFM. Voilà, on a entendu un certain nombre d'insultes ou même d'attaques directes sur les locaux d'un certain nombre de médias locaux, nationaux. Du coup, il y a très rapidement la question du réseau social, de Facebook et des sites un peu plus alternatifs qui étaient quand même plus centrales dans la lutte et dans les lectures, on va dire, des Gilets jaunes. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression que la plupart des médias locaux un peu engagés, etc., ont effectivement tous à leur manière été chamboulés là par le mouvement des Gilets jaunes, quoi. C'est assez clair, ouais.
Et vous, dans votre façon d'opérer en termes techniques votre journal, est-ce qu'il y aura un avant-après, dans le sens où là vous avez sorti un mag 6 mois en avance, vous avez sorti un petit journal papier qui traite sur les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a un nouveau fonctionnement de Rouen dans la rue avec des magazines qui vont sortir plus souvent, ou c'était juste une façon de s'adapter sur le moment?
Ça, c'est encore un peu en questionnement. Ce qui est sûr, c'est que le format magazine là, qu'on essaye de vendre 3 euros, il coûte cher, c'est quand même un objet. Finalement, le contenu est parfois est lui aussi un peu périssable, et l'objet, finalement, il n'est pas forcément en accord avec ce truc-là. En fait, un format journal moins coûteux semble s'imposer, quoi. Du coup, là, on a testé ça, en tout cas avec les Gilets jaunes, là, un petit numéro qui s'appelle La vie en jaune, avec des photos de la région, Barentin, Tourville, Rond-Point des Vaches, etc., des photos exclusives. Du coup, ouais, ce format risque de peut-être devenir le nouveau modèle, quoi.
Et du coup, justement, pour reparler un peu des coups durs de Facebook et aussi d'être un peu contestataire dans toute cette période, pourquoi avoir choisi d'être anonyme? Est-ce que c'est une raison pour justement être un peu loin des répressions qui pourraient avoir lieu? Comme par exemple, bon, Facebook, c'est un peu un coup technique, mais voilà, est-ce que c'est aussi une certaine peur ou...
On peut dire que c'est une précaution. Une précaution et qui s'avère à l'heure d'aujourd'hui avoir été une bonne intuition, parce que là on apprend en fait qu'il y a des médias engagés qui commencent à être poursuivis pour des postes, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Déjà il y a des personnes qui ont lancé des événements par exemple pour faire un blocage d'une raffinerie ou d'une manifestation, qui sont poursuivis pour organisation de manifestations non déclarées, etc. Donc voilà, c'est un délit maintenant. Enfin, ça l'a toujours été, mais là, c'est un délit qui est, disons, mis en application à l'encontre du mouvement. Et voilà, un certain nombre de pages engagées, voilà, qui voient certains de leurs contenus soit censurés ou même qui font l'objet de réquisitions judiciaires, quoi. Donc qui pourraient entraîner des sanctions pénales, quoi.
Une petite dernière question avant de finir, parce qu'il est bientôt l'heure. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, que ce soit sur Internet ou en format papier?
Du coup, page Facebook, donc Rouen dans la rue, le site internet rouendanslarue.net. Et si vous voulez retrouver le magazine et le journal, donc c'est possible de le commander en ligne, donc sur le petit onglet magazine sur le site. Ou bien, voilà, il y a aussi la liste des lieux dans lesquels on a déposé les magazines. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site.
D'accord. Eh bien, merci Nicolas, merci d'être venu nous parler de Rouen dans la rue. Merci aussi Gabriel d'avoir été là. Merci à Loïc et merci à Louis et Adrien. On se retrouve dès jeudi dans le Blabla Mix avec mon collègue service civique. Oui, je vais lui dire Damien aussi, c'est plutôt ça son prénom. Voilà, qui reprend le flambeau tout de suite. Eh bien, c'est l'apéro mix de Soul et Tropique sur le 99.1. Au revoir.